1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Bourdel.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Content de vous retrouver pour Culture Média. Au menu, tous les médias et toutes les formes de culture. Avec aujourd'hui dans les indispensables, on va vous conseiller un film, une série et un comics. Vous retrouverez aussi le 5 majeur de l'émission, Hélène Manarino et son portrait inattendu, Bertrand Chameroy pour son écran de veille, Eva Roque pour le zapping du lendemain, le journal des médias d'Antoine Janton avec un coup de tonnerre dans la télé française et les audiences avec Louise Bernard. Notre info média du jour va se pencher sur un drame humain et une bombe à retardement autour d'un documentaire de France 5, Enfants de Daesh, les damnés de la guerre, damnés à tous les sens du terme. C'est signé Anne Poiret qui sera avec nous. Autre événement annoncé hier très très tard dans l'émission de M6, Marie au premier regard. Après sa rencontre avec Mathieu devant Monsieur le maire, il ne s'était jamais vu avant, c'est le principe. Laure est enceinte et c'est une exclue. Nous accueillerons les heureux futurs parents pour leur première radio. Ça va les changer de l'échographie. Enfin, Marc Lavoine, chanteur, comédien et romancier à succès, il s'engage au profit de l'association Mon Cartable Connecté, qu'il a lui-même créé pour promouvoir un magnifique petit ouvrage, Mon Cartable, quelle histoire. Et j'ajoute Culture Média, quel sommaire. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Louise Bernard.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Et bonjour Antoine Janton, au sommaire de votre journal, je ne vous ai pas laissé nous saluer.
Bah non, salut Philippe, bonjour à tous.
J'étais tellement pressé de cette nouvelle, ce séisme, au sommaire de votre journal Antoine.
Séisme, vous l'avez dit, séisme dans le monde des médias. Ce sera l'ouverture de ce journal des médias et puis une interview spéciale ce soir de Didier Deschamps.
Mais d'abord, les audiences avec vous Louise Bernard, qu'ont regardé les Français hier soir?
C'était Plan B sur TF1 avec Julie Debonat, la série était lancée. Donc 4 360 000 téléspectateurs en moyenne sur les deux épisodes. 20,7% de part d'audience. Je vous laisse me dire que...
Qu'on leur a porté chance et vous ne l'avez pas dit, c'est la meilleure audience, c'est le numéro 1.
Exactement. Ben, je commence toujours par les numéros 1 quand
vrai,
même.
C'est vrai, mais...
Je ne fais pas de surprise comme ça. Donc on a porté chance puisque Julie Debonat était notre invitée hier. France 2 ensuite avec la suite de la fin d'ailleurs de la saison 10 de Meurtre au Paradis. Il y avait un épisode inédit. 3 810 000 téléspectateurs, 17,2% de part d'audience sur la moyenne des deux. Puis c'est M6, Marié au premier regard, 5e saison. 6 mois après, que sont-ils devenus? Eh bien, ils sont proches de leur record de la semaine dernière. 3 230 000 téléspectateurs, 14,8% de part d'audience. Très bon score. Et sur les ménagères, M6 est premier, 29,8%. Hein, c'est la cible commerciale, on le rappelle, la fameuse. Et TF1, juste après, 26%. C'est aussi un bon score.
Et une fois n'est pas coutume, Laure et Mathieu, qui étaient hier, qui faisaient le final de l'émission, seront dans ce studio.
Culture Média.
Le journal des médias Antoine Janton avec à la une une révolution dans le monde des médias français.
Oui, la fusion entre TF1 et M6, les deux premiers groupes de télévision privée du pays. La nouvelle a été annoncée hier soir. Cela faisait 3 mois que Bertelsmann avait mis en vente M6 et ses 3 autres chaînes gratuites ainsi que ses 3 radios dont RTL. Parmi les candidats, vous le savez peut-être, il y avait Vivendi, Mediaset, le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, le milliardaire français Xavier Niel et le groupe TF1 donc, propriété de Bouygues, groupe que Bertelsmann a donc choisi. Un choix qui n'est pas vraiment une surprise, Louise Bernard.
Non, parce que TF1, c'était le favori de l'allemand Bertelsmann. Avec une subtilité quand même, au final, ce ne sera pas tout à fait un rachat, mais plutôt une fusion. C'est donc un nouvel ensemble regroupant TF1 et M6 qui serait créé, dont Bouygues, hein, TF1, prendrait 30% au lieu des 48% de M6 que possède Bertelsmann. L'allemand reste donc au capital, mais c'est bien TF1 qui deviendrait l'actionnaire principal pour la modique somme de 641 millions d'euros. Et à la tête de ce nouveau géant du PAF, eh bien, Nicolas de Taverneau, l'actuel patron de M6, Gilles Pélisson, PDG de TF1, lui resterait dans le groupe Bouygues et deviendrait directeur général adjoint en charge des médias et du développement.
Cette annonce de fusion, plutôt qu'un rachat, permet aux deux groupes de mettre plus de chances de leur côté, Louise, face à l'autorité de la concurrence.
Oui, parce que c'est pas tout à fait gagné pour ce nouvel ensemble. Premier obstacle, TF1 et M6 possèdent 9 chaînes de la TNT gratuite. La loi interdit à un groupe d'en détenir plus de 7. Là, deux options donc pour le futur ensemble. Soit il retire certaines de ces chaînes, soit il les vend, plus facile à dire qu'à faire. Deuxième obstacle, l'hégémonie sur le marché publicitaire. En fusionnant, TF1 et M6 contrôleraient 70% de ce marché, une situation de monopole qui inquiète les annonceurs. Jean-Louis Chétry, le président de l'Union des marques.
La conséquence d'un monopole, c'est la capacité à contrôler le prix à l'achat et à la vente, la limitation de la capacité de nouveaux entrants à rentrer sur le marché, et puis à un moment, la réduction de l'innovation. Et donc, tous ces éléments-là, ils sont inquiétants parce que ça veut dire que les marques qui ont besoin de la télévision pour se développer vont se retrouver face à une absence d'alternative pour pouvoir construire leur communication demain.
Le groupe Bertelsmann a présenté ce nouvel ensemble comme une réponse française aux plateformes mondiales. L'argument convaincra-t-il l'autorité de la concurrence? Le temps qu'elle rende son avis, si la fusion se fait, ce ne sera pas avant 12 à 18 mois.
Ouais, on a encore un peu de temps devant nous. Merci Louise. Et le temps décidément est aux fusions, à la concentration dans les médias. Nouvel exemple aux États-Unis. Hier, Warner Media et Discovery ont annoncé leur union. Là encore, disent-ils, pour concurrencer les grandes plateformes Netflix, Disney+, ou encore Amazon.
On revient en France. Ironie de l'histoire, à TF1 et à M6 déjà associés ce soir pour diffuser une annonce attendue par les amateurs de football.
Celle de la liste des 26 joueurs français retenus pour disputer l'Euro. On en parlait dans le Flash et dans le journal il y a quelques instants. Ce sera dans un peu moins d'un mois à partir du 11 juin. Elle sera donnée cette liste par Didier Deschamps ce soir à 20h20. Le sélectionneur sera ensuite interrogé par deux journalistes, Marie Portolano, récemment arrivée sur M6, et Nathalie Yanetta de TF1. Un court entretien, 10 minutes environ, dans lequel Didier Deschamps expliquera ses choix qui devraient être sans grande surprise. Prise selon Nathalie Yanetta.
C'est pas son genre. Deschamps aime pas les changements, il aime pas les surprises. Il y en aura peut-être une, il y en aura peut-être deux, mais il y en aura pas, 50. L'idée de cette interview, c'est de lui faire bien sûr exprimer ses choix et puis de les analyser, de les comprendre et peut-être de lui demander de se justifier sur un nom ou deux. Les fameuses surprises, si elles sont là, les pas surprises, s'il n'y en a pas aussi, ce qui signifierait qu'il a une forme de certitude, d'une certaine manière, dans un groupe qu'il a bien en tête. Donc voilà, l'idée, c'est d'essayer de comprendre quel type d'équipe il emmène avec lui et puis aussi pour quelle ambition quand même.
Voilà, et ces questions, Nathalie Yanetta les posera donc avec Marie Portolano, deux femmes journalistes de sport. C'est suffisamment rare pour être souligné dans un milieu encore très masculin et régulièrement dénoncé ces derniers mois pour son sexisme. On a demandé donc à Nathalie Yanetta si c'était le signe là d'un progrès.
Si c'était un vrai progrès, la question ne se poserait pas. Ça sera un vrai progrès le jour où le genre des journalistes qui intervieweront des sélectionneurs ne sera justement plus un sujet. Il ne faut pas se mentir, non, ça n'est pas naturel. Ça n'est pas encore naturel. C'est un signe fort, c'est important, c'est une nouvelle étape qui est franchie. Mais non, ce n'est pas encore naturel. Mais ce n'est pas grave, hein. C'est pas grave. L'essentiel, c'est d'avancer.
Nathalie Yanetta qui co-interviewera donc Didier Deschamps avec Marie Portolano ce soir à 20h20, juste après l'annonce des Bleus sélectionnés pour l'Euro, une compétition qui sera retransmise sur TF1, sur M6 et sur Beansport.
Et puis dans l'actualité des médias encore, deux duos pour deux nouvelles émissions de télévision diffusées sur TF1 et sur M6, et promis, on n'a pas fait exprès.
Décidément.
Tombe comme ça.
Le premier, c'est Nathalie Renoux et Julien Courbet, ce sont eux qui vont présenter Appel à témoins avant l'été sur M6, une émission qui va tenter de récolter en direct de nouvelles informations sur des affaires, des crimes, des disparitions qui n'ont pas encore été résolu, on vous en reparlera dans l'émission. Second duo, Camille Combal et Yoann Riou pour Marble Mania, un concours de billes que va diffuser TF1. Le tournage est en cours d'ailleurs. Camille Combal animera l'émission. Yoann Riou, lui, commentera les épreuves. Lui qui a l'habitude de commenter les matchs de football avec fougue. C'est le moins qu'on puisse dire, si vous l'avez déjà vu sur la chaîne L'Équipe.
On l'a surtout entendu.
Voilà, mais on l'a déjà vu, Yoann Riou aussi sur TF1. Il avait participé il y a 2 ans à l'émission Danse avec les stars.
Du changement dans l'air dans l'émission C'est à vous dès demain.
Oui, un retour aux origines, enfin après. Presque les invités de la deuxième partie de l'émission vont à nouveau pouvoir dîner après 7 mois d'interruption due au Covid. À partir de demain, donc, jour de la réouverture des terrasses. C'est sur une terrasse, d'ailleurs, collée contre le studio de l'émission qu'aura lieu ce dîner. Enfin, si le temps le permet. En cas de pluie, toute l'équipe et les invités rentreront sur le plateau habituel.
Et puis Amazon Prime Video qui annonce une suite à LOL qui rit sort.
L'émission animée par Philippe Lachaud va avoir le droit à une saison 2. Elle marche bien. Elle serait le programme le plus vu de l'année sur Prime Video, sans que la plateforme toutefois ne donne de chiffres précis. C'est sur Twitter, sur son compte Twitter, que Amazon Prime Video a annoncé cette suite, tout en demandant à ses followers quelle personnalité ils aimeraient voir jouer. Je vous donne ou je vous rappelle le concept de l'émission. 10 humoristes sont enfermés ensemble pendant 6 heures. Ils doivent tous essayer de faire rire leurs camarades sans rire eux-mêmes. Ceux qui rient, eh bien, ils sortent.
Merci beaucoup Antoine Janton. Merci Louise Bernard. On vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias.
À demain.
Dans un instant, notre info média du jour qui va s'intéresser à une enquête inédite sur les enfants de Daesh. On en parle avec la réalisatrice de ce documentaire édifiant, Anne Poiret. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Ce sont des enfants qui n'avaient rien demandé, des enfants qui se sont retrouvés enrôlés par Daesh, l'État islamique, soit de force, soit après avoir été enlevés, soit par obligation, en suivant leurs parents terroristes. Des enfants rejetés, pour la plupart, aujourd'hui, d'autres essaient, tant bien que mal, de se réintégrer. Et au-delà de cette très dure réalité, leurs histoires témoignent également de fractures qui traversent les pays dans lesquels ils vivent, à savoir l'Irak et la Syrie, 2 ans après la défaite de Daesh. Des fractures et des vies brisées que raconte un documentaire diffusé ce soir sur France 5. Bonjour Anne Poiret.
Bonjour.
C'est vous qui avez écrit et réalisé ce documentaire « Enfants de Daesh, les damnés de la guerre ». D'abord, qui sont les enfants de Daesh ?
Les enfants de Daesh, ce sont d'abord les enfants qui sont liés à ces familles, c'est-à-dire des enfants qui sont restés, soit qui ont des parents qui sont emprisonnés, soit qui sont, dont les pères sont morts et qui restent dans l'Irak d'aujourd'hui et qui sont complètement stigmatisés, dont la plupart n'ont pas de papier, donc ils ne peuvent pas aller à l'école. Ce sont également les anciens enfants soldats. Daesh avait recruté, avait beaucoup de groupes terroristes, beaucoup de groupes armés utilisent les enfants soldats, mais Daesh avait vraiment poussé cette formation très très loin, l'utilisation de ces enfants soldats très loin, et donc beaucoup aujourd'hui sont derrière les barreaux dans des conditions absolument indignes. Et puis enfin, ce sont les enfants qui sont déplacés, qui ont suivi avec leur famille jusqu'au bout l'État islamique, et qui se retrouvent dans ce camp d'Al-Hol où 60 000 personnes sont aujourd'hui détenues, des femmes et des enfants, dont 20 000 enfants irakiens.
Et il y a également des enfants nés de femmes violées par les combattants de Daesh.
Voilà, on a beaucoup parlé des femmes yézidis, hein, du drame et de l'horreur des femmes yézidis, de ce qui s'est passé en 2014. Daesh, en entrant dans le Sinjar, a massacré les hommes et kidnappé les femmes qui sont devenues des esclaves sexuelles. Et bien évidemment, des enfants sont nés de ces viols. La communauté yézidi accueille le retour de ces femmes, mais pas les enfants. Et donc, ces femmes se retrouvent, en plus de l'horreur qu'elles ont connue, avec ce choix complètement déchirant de devoir soit rester dans le camp d'Al-Hol, cacher leur identité, soit rentrer dans leur famille et abandonner ses enfants.
Vous êtes allé en Syrie, en Irak pour tourner ce film. On va commencer par l'Irak où les enfants djihadistes sont rejetés, même quand ils sont tout petits. Exemple avec Yasser, il a 6 ans seulement et son père était un cadre dans l'administration de Daesh à Mossoul.
Quand je suis allé à l'école, ils m'ont dit « Sors, ton père est Daesh. T'as pas de papier d'identité. Sors. Toi et ta mère, sortez. Qu'est-ce que je pouvais lui répondre ? Qu'est-ce que je pouvais dire ? Ce monsieur est plus âgé que moi. Qu'est-ce que j'ai dit de mal ? Rien. Je vois les enfants aller à l'école. Moi aussi j'ai envie d'y aller.
Yasser dit ensuite qu'il a envie de devenir docteur et la question qui se pose dès le début et qui traverse tout votre film, c'est que vont devenir ses enfants ?
Bien sûr, c'est la question que vont devenir ces enfants. Une femme que j'avais rencontrée dès le départ me disait « Ces enfants vont grandir et la haine avec eux ». Et c'est bien toute la question, c'est-à-dire comment on fait avec des enfants qui ne vont pas à l'école, qui sont élevés avec des femmes qui sont pour certaines très radicales encore, et dont on n'offre absolument aucune alternative idéologique, aucun autre choix que l'envie de vengeance finalement.
Alors Yasser, on vient de l'entendre, ne peut pas aller à l'école à cause des actes commis par son père précédemment, actes qui le prive, lui, Yasser, le petit Yasser, de papier d'identité. Cela concerne des milliers d'enfants, pas de papier, donc pas d'école, donc pas d'accès au système de santé non plus. Pour qu'ils en aient, les autorités demandent à leur mère de rompre avec leur passé. C'est une procédure qui s'appelle la Tabria, extrait d'un dialogue au téléphone entre une mère et une avocate.
Si tu veux faire une carte d'identité à ton fils, tu dois faire une demande au tribunal. Tu dois renier ton mari qui était de Daesh. C'est la Tabria. Ta carte d'identité portera alors la mention « divorcée ». Tu as compris ? Sache que tu ne seras ni la première ni la dernière à le faire. Il faut que les femmes puissent accéder à leurs droits, que leurs enfants étudient. Il faut tourner la page définitivement. J'ai plus de 200 cas d'enfants qui ne peuvent pas aller à l'école faute de papier.
Mais moi, je ne souhaite pas le faire.
La mère qui porte le voile intégral qui refuse, les conséquences d'un tel refus sont lesquelles ?
Eh ben pas d'école. Alors le gouvernement, les politiques irakiens commencent à être un petit peu conscients du problème et disent qu'ils veulent essayer d'alléger un peu cette contrainte de la Tabria parce que ça a des conséquences assez lourdes. Quand les hommes sont incarcérés, certains sont innocents quand même. Il y a des gens qui ont été attrapés et qui ne sont pas de Daesh. Le problème, c'est quand la procédure de Tabria est faite, c'est une accusation. Finalement, la femme, en reniant cet homme, ça devient une preuve, si vous voulez, qui peut avoir des conséquences, qui peut aller jusqu'à la peine de mort. Donc ça peut être assez problématique et très lourd. Et donc bon, le gouvernement commence à réaliser que c'est un problème, que ces enfants ne peuvent pas rester comme ça. Donc il y a des endroits où c'est allégé pour certains papiers, parce que c'est très bureaucratique l'Irak. Mais voilà, dans l'ensemble, sans Tabria, pas d'école.
Ça va même très loin, puisque l'avocate qu'on a entendue n'a pas voulu être filmée. Et quelles étaient ses raisons?
Bien sûr, on n'a pas pu filmer ni d'avocat, ni d'ONG. Il y a certaines ONG qui essayent d'aider hein, dans ce processus qui est très lourd. Et ils sont très inquiets d'être considérés comme des complices de Daesh, d'être accusés de collaboration, d'être accusés, d'être mis en cause eux-mêmes pour appartenance terroriste. Donc on a pu juste avoir des gens au téléphone.
Oui, parce qu'on voit la perception de ce qu'a fait Daesh, le mal qu'a fait Daesh au cœur des populations. C'est dans le début du film, les familles dont des membres ont combattu ou travaillé pour Daesh sont mises au banc de la société en Irak, et le pardon semble impossible. Vous montrez ça à Anne Poiret, notamment à travers la parole des Mokhtars. Les Mokhtars, ce sont ces hommes qui font le lien entre l'État et la population, quartier par quartier, notamment à Mossoul. Ce sont eux notamment qui gèrent les demandes d'anciens partisans de Daesh qui désormais veulent rentrer chez eux.
Quand nous demandons aux habitants leur avis sur l'éventuel retour des familles de Daesh, ils disent tous « hors de question ». À cause d'eux, j'ai perdu mon frère, mon fils, mes neveux. Moi, je l'ai vu de mes propres yeux, leurs enfants, ceux qu'ils appelaient les lionceaux du califat. Ils leur faisaient jeter des cailloux sur les cadavres. Après les exécutions. Les enfants qui ont assisté à ça, ceux qui ont vu leur père ou leur frère exécuter des gens, auront ça en eux, pour toujours.
C'est insoluble à entendre cet homme. Les enfants djihadistes sont des enfants perdus.
Il faut bien se représenter que la fin des combats contre l'État islamique, c'est 2017. Pour les gens de Mossoul, c'est hier. Ça a été des combats absolument effroyables. C'est la pire guerre urbaine de ces dernières décennies. Il y a une partie de la ville qui est encore à terre. On le voit un petit peu dans le documentaire. Il y a des parties de la vieille ville qui sont encore rasées. C'est une population qui a subi le joug de l'État islamique pendant 3 ans. Et avant, ce qu'on a du mal à se représenter, Mossoul est traversé par ces conflits, par Al-Qaïda, par les enlèvements, par une violence absolument indicible depuis 2003. Donc si vous voulez, c'est une population qui est complètement traumatisée. 2017, c'est encore très très frais.
Pardon de ce point Godwin, mais c'est comme si des soldats nazis seraient venus habiter à Paris. C'est juste impensable pour les populations. Tout est affreux, tout est horrible dans le doc que vous montrez.
C'est une situation d'après-guerre, c'est assez universel, comme vous le dites, la fin des combats, c'est comme ça.
D'après-guerre civile.
D'après-guerre
civile.
Parce que
c'est ça la grosse différence avec une guerre normale où les belligérants repartent chacun dans leur camp. Là, ils sont dans le même camp, ils sont dans le même quartier, dans la même rue, c'est ça qui est terrible.
Voilà, comment revivre avec ces anciens bourreaux, comment revivre avec les enfants de ces anciens bourreaux, donc, qui n'ont bien sûr rien fait eux, mais qui portent leur histoire, qui portent tout ça, et comment faire avec eux.
Des enfants qui regrettent, il y a également des enfants qui assument, on continue d'en parler. Enfants de Daesh, les damnés de la guerre, c'est ce soir sur France 5 et sa réalisatrice Anne Poiret est dans notre studio. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
En compagnie d'Anne Poiret qui signe ce documentaire poignant sur France 5 ce soir, Enfants de Daesh, les damnés de la guerre. Ces enfants, vous les avez rencontrés, vous les avez interrogés. Ils expliquent parfois qu'ils regrettent, évidemment, et qu'ils n'avaient pas d'autre choix que de rejoindre Daesh. Exemple avec Tarek, il a 11 ans.
J'ai commis une erreur dans ma vie et je la regrette. J'ai suivi les 20 jours de leur formation religieuse. Nous étions obligés. À Mossoul, on crevait de faim. On l'a tous fait pour ça. Ils donnaient aux jeunes des motos et des voitures et $100 chaque mois. Si tu me vois avec une moto et que toi, tu n'en as pas, ça te fera envie. Pareil pour l'argent. Ils les ont attirés par l'argent.
C'était un présent de narration. Tarek a 11 ans quand il rejoint Daesh. Désormais, il a 17 ans. Il exprime des regrets, ce qui n'est pas le cas de tous les enfants de Daesh, comme vous les appelez. Certains disent qu'ils veulent mourir en martyrs.
Tout ça, c'est à cause des autres pays. Ils ont attaqué l'État islamique dès sa création, parce qu'il appliquait la charia. Mais c'est la volonté de Dieu de vivre selon le Coran, de faire les prières. Le prophète nous l'a demandé. Il faut recommencer. jusqu'au jugement dernier.
Alors lui, c'est Mohamed, un Irakien qui vit dans un camp en Syrie. L'Irak ne veut pas qu'il rentre, lui comme des milliers d'autres enfants. Il n'y a pas de mesure de déradicalisation.
Non, il n'y a rien. Il n'y a rien qui ressemble à ça. Mohamed, on l'a rencontré à Al-Hol. Al-Hol, c'est un camp du nord-est syrien où ont été conduits les femmes et les enfants qui ont été pris à la chute de l'État islamique à Barouz en mars 2019. Des milliers de femmes et d'enfants ont été emmenés là-bas. Il y a encore 60 000 personnes, majoritairement des enfants. Il y a 20 000 enfants irakiens dans ce camp. C'est un camp qui est dénoncé par la plupart par l'ONU, la plupart des ONG de droits de l'homme, où les conditions sanitaires sont épouvantables. Et il n'y a absolument rien qui ressemble à de la déradicalisation. Il y a un semblant d'école. On a pu filmer l'action de Save the Children, qui offre quelques heures d'école, des cours d'arabe, des cours de maths, vraiment quelque chose de très, très basique pour faire que ces enfants ne soient pas complètement illettrés. Mais il n'y a rien qui ressemble à de la déradicalisation en tant que telle. Et beaucoup des femmes qui ont été conduites là-bas, c'était les plus dures, hein, c'est celles qui ont reculé avec l'État islamique d'Irak, de Ramadi, de Mossoul et de Raqqa, et qui se sont retrouvés à Barouz et qui ont encore, qui gardent l'idéologie intacte. Pas toutes, hein, mais il y en a quand même vraiment qui sont encore très radicales. Et donc ces enfants grandissent auprès d'elles et n'ont absolument aucune autre alternative idéologique. Donc c'est très logique finalement qu'ils répètent ce qu'ils entendent.
Alors ces enfants combattants qu'on a appelés parfois les lionceaux du califat, quand ils sont rentrés ou restés en Irak, ils ont été recherchés par les autorités. Beaucoup d'entre eux ont été arrêtés puis emprisonnés dans des conditions dramatiques. Le mot dramatique prend tout son sens. Vous le montrez, vous avez pu tourner des images inédites, exceptionnelles, dans l'une de ces prisons. Qu'est-ce qu'on y voit? C'est pas votre caméra qui filme, mais c'est quand même votre caméra qui filme. Et ce qu'on voit est ahurissant.
Alors, on voit des enfants qui sont entassés dans des pièces d'une 30 mètres carrés, 200 enfants qui dorment, couchés les uns sur les autres, parce qu'il n'y a absolument pas de lit, il n'y a pas d'endroit pour se tenir. Donc, ils passent la journée, finalement, couchés comme ça dans cette salle.
Je dois dire, ce n'est pas votre caméra qui filme, vous filmez des écrans de vidéosurveillance. Pardon de dire ça, on a l'impression de voir des poulets en batterie filmés par en dessus.
Non, c'est épouvantable. On n'a pas été autorisé, c'est absolument interdit de filmer dans ces prisons. Après de longues négociations, on a obtenu d'avoir l'autorisation de rentrer dans la prison sans caméra, de voir les choses par nous-mêmes et de filmer ces caméras qui sont les caméras qui servent à surveiller ces adolescents et ces enfants pour montrer ce qui se passait. En fait, si on nous a laissé faire ça, c'est que les gens qui sont responsables de cette prison, et notamment les juges, sont absolument choqués et ulcérés par ce qui s'y passe, par le peu de moyens qu'ils ont. Et ils sont absolument conscients qu'ils sont en train de fabriquer d'autres djihadistes, parce que il y a une telle... La façon dont sont traités ces enfants ne peut produire que cette envie de violence et cette envie de vengeance. Et c'est eux-mêmes qui le disent, ces juges, qui sont très très choqués parce que qui s'y déroule. Alors, ça a un tout petit peu changé il y a quelques semaines, on le dit dans le film. La plupart des enfants ont été sortis de cette prison. Finalement, ils ont trouvé cette solution très simple. Comme beaucoup étaient incarcérés depuis 3 ans maintenant, certains depuis leurs 12 ans, la plupart d'entre eux qui avaient 14-15 ans sont devenus majeurs. Et donc, ils ont été envoyés dans des prisons pour adultes qui ressemblent à peu près à la même chose.
Ce qu'on voit quand on regarde ces images, le mot qui vient, c'est inhumain, il n'y en a pas d'autre. Les enfants que vous interrogez dessinent souvent avec des craies grasses, c'est vous qui leur avez apporté les craies?
Oui, en fait, ce sont des mineurs, donc évidemment, il n'est pas question de les exposer, de les filmer, d'abord, beaucoup ne le voulaient pas, mais même s'ils l'avaient voulu, nous, il faut protéger leur identité. Alors évidemment, en télévision, on a quand même un problème, il faut montrer des choses, ouais. Et donc on s'est dit, puis la parole d'un enfant, ça peut être compliqué de la recueillir, l'expression peut être difficile ou limitée, donc on a voulu leur offrir un médium, un moyen de s'exprimer. Et donc, on leur a donné ces feuilles et ces crayons pour qu'ils dessinent ce qu'ils voulaient nous
exprimer. Alors justement, que racontent leurs dessins ?
Eh bien, chez des tout-petits, chez cette petite fille qui est la petite fille abandonnée dans un orphelinat de papa djihadiste et de maman yézidi, il y avait ces maisons, enfin ce qui ressemblait à des maisons écroulées. On imagine, c'est une petite fille qui a traversé Barouz, qui a subi les bombardements dans tous ces mois d'horreur de la fin, hein, de Daesh. Il y a des enfants plus âgés qui nous dessinent des kalachnikovs, des RPG de façon extrêmement précise. Hein, quand on leur demande de dessiner un arbre à 17 ans, ils ne savent pas le faire, mais dessiner des arbres, c'est très, très précis.
Ouais, RPG, c'est un lance-grenade.
Voilà. Il y a des enfants qui nous dessinent, plus âgés, qui nous dessinent des combattants avec des gilets des explosifs et puis des couteaux ensanglantés. Il y a tout un panel d'expressions en fait qui racontent l'horreur vécue.
L'image du couteau ensanglanté est très très forte également. Merci beaucoup Anne Poiret, enfant de Daesh, les derniers de la guerre, c'est bouleversant et c'est ce soir sur France 5 à 20h50. Dans un instant, tout autre chose dans Culture Média, beaucoup plus joyeux, focus sur Marié au premier regard, l'émission surprenante d'M6 qui attire de plus en plus de curieux, c'est la saison 5, ça marche toujours de mieux en mieux. On en parle avec deux personnes qui ont tenté l'aventure, ils ne se connaissaient pas, ils sont découverts devant Monsieur le Maire, ils se sont mariés et un bébé est en attente. Et il s'appelle Laure, il s'appelle Mathieu, ils seront dans ce studio dans un instant, à tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Bonjour Laure.
Bonjour.
Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Comme l'a dit un magazine télé, ce couple est le rayon de soleil de la saison 5 de Marié au premier regard. Vous êtes rencontrés devant les caméras de l'émission de M6, donc cette émission dont le dernier numéro de la saison a été diffusé hier. On peut le voir évidemment en replay. Vous connaissez les audiences ou pas du tout ?
Pas du tout.
Ah, non, pas du tout.
Il fallait écouter Louise Bernard dans le journal des médias. Les audiences, 3,230 millions de téléspectateurs, 14,8% de part d'audience. C'est encore mieux que l'audience moyenne, le score que vous avez fait hier. Pour qui ne connaîtrait pas, est-ce que vous pouvez expliquer ou réexpliquer le principe de Marié au premier regard ? Qui se lance ?
Je pense que Laure est bien partie.
Alors le principe, c'est simple, c'est quand on ne sait plus comment faire pour rencontrer quelqu'un.
Quelqu'un de bien, ouais.
Voilà, on s'inscrit à un casting et en fait des experts sont là pour nous trouver quelqu'un de compatible. Mmh. Et si compatibilité il y a, on va jusqu'à la mairie et on découvre le marié ou la mariée le jour J.
Vous aviez quel taux de pourcentage, quel taux de compatibilité ?
Nous, on était compatibles à 79%.
Et donc Laure, si on a bien compris, vous attendez un heureux événement. Ça peut presque se voir sur les caméras d'Europe1.fr. Voici comment votre grossesse, parce que c'était tenu secret, a été annoncée dans l'émission. C'était hier soir, il fallait attendre la fin. Il était 23h15.
J'ai envie de fraises en ce moment. Qu'est-ce que j'ai envie de fraises en ce moment ? Ah non, c'est toi qui as envie de fraises.
Il se peut qu'il y ait eu un petit imprévu. Qui fait aussi qu'on a pris cette décision d'aller peut-être un peu vite.
C'est ça.
Parce que, on attend un petit bébé.
Tu veux entendre le cœur de notre petit enfant.
On va être papa et maman, c'est fou.
On s'est dit qu'on voulait faire les choses lentement et prendre notre temps.
Et puis...
Tout à fait ce qu'on a fait.
Bon, évidemment, c'est une antiphrase. S'est passé combien de temps entre, si j'ose dire, la conception, sans rentrer dans le détail, et la rencontre devant Monsieur le Maire ?
Je sais pas si je veux le dire.
À partir de la première position, en fait, voilà.
Tais-toi. Non, il y a deux mois. Ça a été très, très vite. On s'y attendait pas du tout. Mathieu était soi-disant stérile.
Oh là là, c'est gênant de parler de tout ça.
Ah non, c'est la première fois que j'entends ça. Je m'attendais pas à une telle révélation.
Il a eu les tests plus tôt que prévu.
Ouais, je vais faire les démarches pour savoir justement si j'avais un problème de fertilité ou quoi.
Ouais.
Et puis au final, j'ai eu les résultats plus tôt que prévu. Non, finalement, c'est bon. Tout va bien. Okay.
Et en fait, Laure a cru votre première parole, à savoir que vous étiez stérile. L'heureux événement qui arrive.
C'est dernière question
avant de changer de sujet. Oui. L'heureux événement est prévu pour quand ?
Août.
Le 11 août.
Ah, vous avez la date en plus ?
On a la date.
Pour la fête de ma sœur, la 5e.
Je vais faire les présentations. Vous avez 31 ans, Laure, vous êtes entrepreneuse, spécialisée dans la déco, ancienne nageuse de haut niveau, ai-je lu. Mathieu, vous êtes cordiste, c'est-à-dire alpiniste urbain. Hier soir, c'était l'émission Bilan, c'était 6 mois après le mariage. Est-ce que les couples ont tenu ? Parce que tous n'ont pas tenu, évidemment. Vous avez découvert pour la première fois les images de votre propre mariage. Vous étiez dans quel état quand vous avez vu ces images ?
C'était très émouvant.
Ouais, voilà. Moi, je crois que ça s'est vu. Hein. J'ai pleuré direct. Non, c'était très émouvant.
Alors moi, ce qui m'a vraiment frappé, il faut rappeler les choses, parce que vous êtes devant le maire. Le soir, il y a un dîner avec les familles, le dîner de mariage. Vous ne vous connaissez depuis que quelques heures. Mathieu, vous êtes très timide. Finalement, on vous voit faire un petit smack à l'or sur la bouche. Et il y a la psy, parce qu'il y a la psy qui re-regarde les images du mariage. Elle s'appelle Estelle Dossin. Elle est toute en bienveillance. Elle voit ces images. Elle dit « Ah, enfin, voilà !» Vous savez quoi ça m'a fait penser ? Aux soigneurs dans les zoos, quand ils mettent deux pandas dans un enclos en espérant qu'ils se reproduisent. Incroyable. Ma question est, est-ce que vous avez eu l'impression d'être libre ou l'impression d'être, même si le mot est un peu fort, des rats de laboratoire? Comment vous avez vécu cette expérience? Parce que c'est une expérience télévisuelle, mais c'est avant tout une expérience humaine, cette émission.
Oui, non, on était complètement libre. Hein. Je pense que ça s'est vu. Hein. Moi, j'étais libre d'être timide et puis d'avoir peur complètement.
Ouais.
Et du coup, bah, Laure était plus à l'aise par contre.
Moi, j'étais, en fait, j'ai vraiment fait abstraction des caméras complètement. Je sais pas mentir, je sais pas être quelqu'un d'autre et je pense que ça s'est ressenti.
Ouais.
Et voilà, moi j'ai vécu.
Quand même, quand c'est le soir de la nuit de noces et qu'il y a un caméraman avec vous, on peut pas se sentir libre.
Il s'en va assez vite au final. Et puis avec les petites coupes de champagne, ça passe quand même bien.
C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de champagne. Hein.
Non, mais non, en vrai, voilà, il y a des caméras au début, c'est le jeu, on sait dans quoi on s'est embarqué. Et voilà, mais après, on a su apprendre à se connaître au-delà de ça. Quoi.
Et à jouer avec la production un petit peu.
Un petit peu, ouais, on a un peu triché une
vous
fois.
Vous les avez un peu grugé. Racontez ce que vous avez fait.
Bah, en fait, on était dans en retour de voyage de noces et Mathieu me propose d'aller chez lui, de poursuivre le voyage. Et ce à quoi la production nous dit « Ah, si tu vas chez lui, attends, on vous suit ». Et Mathieu me dit non.
Il m'a dit « Ouais, je lui ai dit non, on va leur dire que finalement tu viendras un autre week-end ». Et puis donc on leur dit au revoir et j'ai demandé au taxi de faire le tour de son quartier pour venir la récupérer, pour qu'on parte, qu'on fugue tous les deux à la campagne en amoureux.
Voilà.
Et on avait besoin d'apprendre vraiment de se retrouver seul pour voir si ça fonctionnait. Parce qu'on ne sait pas si c'était un rôle tous les deux parce qu'il y avait les caméras. On avait
bien
besoin
sûr.
De savoir si c'était sincère ce qu'on ressentait.
C'était le sens de ma question, c'est pour ça que je vous posais cette question.
Et du coup, ouais, ça nous a fait du bien.
La prod s'est fâchée. Sur votre compte Instagram, vous avez mis Pompon Cucu.
Ouais, non, c'est gentil. Hein. En fait, c'est juste que effectivement, le jour où Mathieu vient et découvre mon appart, j'avais imprimé quelques photos et il y avait des photos du week-end et donc du chien de Mathieu. Et la journaliste me regarde les photos, elle dit « Ah, elles sont super belles !» Elle fait « Mais c'est le chien à qui ?» Et du coup, ne sachant pas mentir, j'ai avoué, j'ai confessé et elle m'a dit « Oh, si jamais ça se sait, t'abuses et tout !» On s'est fait un peu disputer, mais après, bon, bah voilà, ça peut se comprendre. Hein.
Oui.
On est des êtres humains, normaux. Oui. Classique, on a envie de se voir aussi.
Si j'ai bien compris, Laure, ce qui vous a séduit chez Mathieu, en partie, c'était son humour. Exemple, puisque Mathieu vous parlait de champagne, vous êtes chacun avec une coupe de champagne en train de trinquer.
Bah écoute, à notre lune de miel et puis à notre mariage.
Ouais.
Bah du coup, à nous.
À nous, quoi, ouais.
Ouais, j'aurais dû dire ça, soit t'es plus vite, on aurait perdu moins de temps pour boire.
Exactement. Il arrive que les mariages ne se fassent pas. C'est d'ailleurs une des punchlines de l'émission. Pour une fois qu'on peut avoir un peu de suspense dans un mariage, qu'est-ce qu'on va en dire ? Suspense, Culture Média continue, à tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Laure et Mathieu, le couple formé grâce à l'émission Marié au premier regard sur M6. Ils sont deux dans ce studio, ils seront bientôt trois puisqu'un heureux événement est attendu. La question que tout le monde se pose, c'est même la punchline de l'émission, je l'ai citée, M6 titrait « Pour une fois qu'on peut avoir un peu de suspense dans un mariage ». Oui, parce qu'il y a des gens qui ont dit non. Question à tous les deux, comment aviez-vous ou avez-vous anticipé l'éventualité que vous ayez envie de dire non au dernier moment ou que l'autre ait envie de dire non ?
Alors, moi, personnellement, je pensais pas tant à moi. Enfin, j'étais plus paniquée par le fait que Mathieu puisse dire non. Parce que, je suis pas quelqu'un d'hyper confiante de base. Donc voilà, j'avais peur de pas lui plaire.
Mmh.
Et on avait prévu une petite stratégie avec ma sœur. Elle devait simuler une attaque.
C'est vrai.
Si Mathieu disait non.
Elle une attaque, comme ça interrompait
comme ça,
le tournage.
Comme ça, les caméras coupées, ouais, voilà. Et comme ça, j'avais pas la honte.
Mathieu, même question, même réponse.
moi, c'est comme Laure, je pense.
Est-ce que déjà vous étiez imaginé dire non ou pas ?
Non, parce que je pensais qu'il fallait pas s'arrêter au physique et il fallait creuser s'il y avait autant de compatibilité. Je pense qu'il fallait pas s'arrêter juste au physique.
Mmh.
Et non, comme Laure, j'étais plus stressé par rapport au regard qu'elle allait avoir sur moi, en fait. Et du coup, non, moi, j'avais pas de stratégie, je voulais pas fuir. Hein.
Voilà. Après, il y a la suite, parce que quand on regarde les chiffres, en 4 saisons, vous le savez, 84% des mariages de l'émission sont soldés par un divorce. On vous avait annoncé ce pourcentage avant. Vous avez dit que c'était un peu dangereux.
Oui.
Je vais le dire quand même, pour les 4 premières saisons, sur les 22 couples qui sont engagés, 2 ont renoncé avant même de se rendre à la mairie. Un couple n'a pas validé son mariage devant le maire, ils ont dit non. Et 17 ont divorcé. Il en reste plus que 2 qui sont encore mariés. Là, il y en a pour qui ça n'est pas très bien passé. Maintenant, je ne trahis plus un secret. On va parler de Cécile et Alain. C'est la première famille recomposée de l'émission. Cécile, c'est la maman d'Anissa et du chien chauve avec 3 poils sur le caillou. C'était quelques semaines avant le mariage. Cécile sentait qu'il y avait de l'eau dans le gaz. Elle prend l'initiative de rejoindre Alain chez lui sans prévenir. Mauvaise idée.
Chérie, il faut que je te parle d'un truc.
Ah, oh, dis-moi, parle-moi d'un truc.
En fait, j'ai l'impression... malgré que tout ce que je fais pour nous, j'ai l'impression que si j'arrête ça, je serai. En fait, il n'y aurait pas grand-chose. Tu comprends ou pas ?
Oui, je comprends, mais en même temps, hein, tu sais, moi, je travaille beaucoup.
Mais chérie, en fait, j'ai envie que tu prennes des initiatives.
Mais de quoi tu parles, là, je comprends pas, là.
Mais pourquoi tu t'as... Tu...
Non, mais ça me gonfle, en fait.
Mais pourquoi?
Bah, parce que ça me gonfle, en fait. Tu vois, tu me fais des reproches qu'il n'y a pas lieu d'avoir, tu vois.
On entend cet embrouille de couple. En même temps, vous savez qu'avec le montage, quand on tourne très très longuement, on peut faire dire ce qu'on veut aux gens. Est-ce que vous avez l'impression que le montage qui a été montré correspondait à la réalité?
Pour nous,
c'était très fidèle à ce qu'on a vécu. Il n'y a pas eu de montage où on est resté, on est resté naturel et c'est ce qui a été diffusé. On se retrouve en tout cas dans l'émission.
Oui, après, forcément, c'est résumé. Ils peuvent pas montrer tout ce qui s'est passé. Et des fois, quand on oublie un passage, et forcément, on peut interpréter la suite différemment. Mais en général, c'est quand même très proche de la réalité.
Ouais. Je reviens à l'émission d'hier soir, l'émission Bilan, je le rappelle, c'est 6 mois plus tard. Je vous fais entendre un dialogue. C'est Mélina et Yannick. Yannick, c'est le pompier. Donc, désormais, ils habitent ensemble. Mais comment s'est fait cette cohabitation? Réponse.
Ça s'est fait tout seul. On était tout le temps ensemble, franchement.
Ouais.
J'étais chez elle, elle était chez moi. Alors, au début d'une relation, c'est toujours ça. Mais là, on s'est posé la question, est-ce que
on ferait pas mieux de vivre ensemble, voilà, finalement, parce qu'on est tout le temps ensemble.
Et aussi parce qu'on est mariés.
Ouais, surtout qu'on est mariés.
Elle dit, c'est vrai qu'on est mariés, même les candidats finissent par l'oublier, et vous êtes vraiment mariés pour de vrai, vous avez les papiers, etc.
Oui, on a le livret de famille, on a tout.
Il va bientôt servir, d'ailleurs.
L'un des enjeux de cette émission, c'est l'émission elle-même. C'est une émission qui est une mise en abyme dans l'émission, puisqu'elle se pose tout le temps la question, est-ce qu'il est convenable d'épouser quelqu'un qu'on n'a jamais vu de sa vie? Je connais vos réponses, mais comment vos familles l'ont pris?
Moi, j'avais très peur de leur réaction et j'ai été au final agréablement surprise parce que je pense qu'ils ont confiance, mes parents ont confiance en mes choix et du coup, ils m'ont fait confiance et ils m'ont suivi jusqu'au bout. Mais c'est vrai que de base, c'est quand même particulier hein, comme concept. Mais c'est pas pire qu'une application de rencontre au final où tu swipes de droite à gauche où tu juges uniquement sur un physique et puis tu rencontres la personne. Enfin, au final, c'est un peu pareil. Quoi.
Beaucoup de peur, beaucoup d'inquiétude, quoi.
Dans votre famille?
Dans ma famille, il y avait beaucoup de peur, beaucoup d'inquiétude. Ça créait beaucoup de stress parce que nos parents, même les parents de Laure, c'est des gens bienveillants qui prennent soin de nous, de leur enfant. Et du coup, c'est vrai que de dire qu'ils vont laisser leur enfant épouser quelqu'un, ils ont peur qu'on s'engage dans quelque chose qui va nous dépasser, qui ne va pas nous plaire. Et ils ont peur qu'on soit triste à l'avoue final.
Et qu'est-ce que ça va changer pour vous dans votre travail, puisque maintenant vous êtes connu, et même très connu?
Moi ça change rien, je continue toujours mon
oui,
travail.
Il fait des petites selfies à droite à gauche, ouais.
sur deux, trois chantiers, c'est vrai que je suis un peu la star.
Ouais.
Moi on ne me reconnaît pas trop, enfin si de temps en temps, mais en fait je suis hyper mal à l'aise, et puis sous le masque on ne voit pas que je souris.
Ouais.
Donc je pense que parfois je
peux passer
pour
pas.
Quelqu'un
d'antipathique.
Qu'est-ce que vous répondez aux féministes qui critiquent le programme comme étant passéiste, programme qui reproduit selon elles les schémas traditionnels, selon elles et même selon eux, puisqu'il y a des hommes féministes, beaucoup?
En fait, c'est un choix. Hein. Nous, on est OK avec ce choix. On a signé pour. On veut faire cette démarche, en fait. Donc, je vois pas où il est le problème à partir du moment où on est consentant. On sait dans quoi on s'embarque. Enfin, voilà, c'est tout.
Votre prochain projet? Il y aura un prochain projet devant des caméras?
On n'y a pas pensé.
Ah bon? Pékin Express, vous n'y avez pas pensé?
Non. Alors, c'est quelque chose qui pourrait me plaire, Mathieu, moins, je crois.
Moi, je l'aurais fait par solidarité, mais c'est pas quelque chose
avec
qui
m'aurait tenté. Avec un baby, c'est un peu plus compliqué,
ça va être compliqué.
Là.
Voilà.
Mais après, il y a plein de choses qui peuvent être rigolos. En fait, toutes les expériences sont bonnes à prendre. Après, pas dans de la télé-réalité, des choses comme ça. Enfin, je nous vois pas du tout dans des programmes comme ceux-là, mais.
Voilà. Et pour dire à quel point c'est concret, vous avez acheté un appartement, vous avez le contrat, vous avez le prêt?
On est en train...
Et c'est une maison.
C'est une maison, c'est à la campagne. Hein, parce
que
je suis partie de Paris.
Merci beaucoup Laure et Mathieu. Je rappelle, si on veut vous voir mariés au premier regard, c'est en replay sur M6 Play. Merci d'avoir choisi Culture Média pour votre première radio.
Merci.
C'était un plaisir. Merci beaucoup. Culture Média continue après le rappel des titres de 10h. On va recevoir Eva Rock pour son zapping du lendemain avec un documentaire très alarmant sur la situation des LGBT en Tchétchénie. Et Bertrand Chamerois, pour son écran de veille, il s'est focalisé sur le 13h de TF1. Notre invité, faut-il le présenter, Marc Lavoine, chanteur mais pas seulement, pour Mon Cartable, quelle histoire, un ouvrage collectif rempli de souvenirs d'école au profit de l'association Mon Cartable Connecté. C'est quoi un cartable connecté? Il va nous dire. Et puis dans Les Indispensables, un drame juridique inédit, c'est sur Netflix, et la réédition d'un très rare comics. À tout de suite.
Europe 1, Culture Média.